Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, première édition, Agnès Bonfillon.
À la une de l'actualité ce samedi, une nouvelle fusillade aux États-Unis, une tuerie de masse qui a fait au moins 20 morts, 26 blessés. Cela s'est déroulé dans un centre commercial du Texas, à El Paso précisément, Pauline Simonet.
Les images des caméras de surveillance montrent un jeune homme très déterminé pénétrant dans le magasin armé d'un fusil d'assaut de type Kalachnikov. Le tireur a ouvert le feu à de très nombreuses reprises dans le supermarché bondé qui venait de mettre en vente les fournitures scolaires pour la rentrée. Interpellé par la police, l'auteur de la fusillade, qui s'est rendu sans résistance, a été identifié. Il s'agit d'un homme blanc originaire de Dallas, au Texas. Peu avant le bain de sang, le tireur aurait posté sur Internet un texte raciste dénonçant notamment l'invasion hispanique du Texas. Le chef de la police d'El Paso confirme qu'une enquête est en cours.
Nous sommes en possession d'un manifeste de cet individu qui indique un lien possible avec un crime à caractère raciste. Le FBI et d'autres agents sont en train d'enquêter.
La ville endeuillée d'El Paso a été récemment au cœur d'une polémique. C'est là que Donald Trump avait prononcé un discours prônant la construction d'un mur anti-migrants à la frontière, ce qui avait provoqué une levée de boucliers des habitants.
Pauline Simonet, la correspondante de RTL aux États-Unis. Donald Trump s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Le président américain condamne, je cite, un acte haineux. Cette fusillade est non seulement tragique, ce sont ses mots, mais aussi un acte lâche. Il avait 49 ans, marié, deux enfants, Franck Chesneau, et ce pilote mort vendredi alors qu'il tentait de ralentir les flammes à Générac dans le Gard à bord de son bombardier d'eau. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. De très très nombreux hommages lui sont rendus. À 8h20, vous pourrez entendre un document RTL. L'un de ses plus proches amis a accepté de se confier à Patrick Tégéreau. Il le connaissait depuis 27 ans. À Nantes, deux manifestations très différentes hier en hommage à Steve, comme le redoutaient les autorités. Celle qui était non autorisée en plein centre-ville l'après-midi a dégénéré. Vitrines brisées, mobilier urbain saccagé et affrontement avec les forces de l'ordre. Rien à voir avec le premier rassemblement, Mathieu Lopineau.
Oui, hier matin à 11h, près d'un millier de manifestants s'est réuni dans le calme, au bord de la Loire, près du lieu où le corps de Steve a été retrouvé. Moment d'émotion et de recueillement, suivi de longs applaudissements. Jean-Paul est venu déposer des fleurs.
C'est terrible pour la famille et les proches. Je dis que la police, elle n'assume pas. À mon avis, là, la police n'a pas gardé son sang-froid. Pour moi, c'est important d'être là et de rendre hommage à ce pauvre garçon qui n'a rien demandé, si ce n'est faire la fête, un jour de fête de la musique. Donc on oublie un peu tout.
L'après-midi, seconde manifestation en centre-ville. Cette fois-ci pour dénoncer les violences policières. 3000 manifestants dans un nuage de gaz lacrymo. De nombreux affrontements avec les policiers, du mobilier urbain et des vitrines cassées. Cédric est pacifique. Il brandit sa pancarte au milieu du cortège.
Merci. Police danger de mort.
Pourquoi ?
C'est pas normal que les polices aient chargé comme ça qu'à Wilson, que des jeunes se retrouvent gazés, matraqués. Ces gens-là, ils devraient être virés de la police. Le préfet devrait être viré de la préfecture. Castaner devrait démissionner.
Plusieurs manifestants ont été blessés. Il y a eu 42 interpellations. Le cortège s'est finalement dispersé peu après 19h.
Mathieu Lopineau à Nantes pour RTL. Deux jeunes toujours hospitalisés en Haute-Saône. Ils sont dans un état grave mais stable. Comme un autre de leurs camarades, ils ont été contaminés par la maladie des rats, la leptospirose. Ils faisaient tous partie d'un groupe venu se baigner dans une rivière qui n'est pas une zone de baignade contrôlée et donc sans analyse sanitaire. Selon la préfecture, ces trois cas sont les seuls détectés à ce jour dans la région. Par mesure de précaution, plusieurs lots de Roquefort de la marque Société sont rappelés. Il est possible qu'ils soient contaminés au salmonelle. Les produits concernés ont été commercialisés entre le 9 juillet et le 2 août. Parmi les grands titres de l'actualité ce matin, la mort de Jean-Claude Boutier, une légende de la boxe. Cette fois, l'ancien champion de 74 ans n'a pu se relever face à la maladie. Jean-Claude Boutier, beaucoup se souviennent de ses deux combats contre Carlos Monzon, le monstre argentin. Le Français n'avait pas réussi à vaincre ce dernier, mais ses rencontres restent mythiques, sans parler évidemment de ses titres européens. Celui que rien ne prédestinait à une telle carrière, il avait commencé comme apprenti charcutier. charcutier, a ensuite commenté la boxe pendant 18 ans sur Canal+. Et pour les générations qui ont suivi, cela reste un très très grand nom. Il n'hésitait pas d'ailleurs à donner des conseils aux jeunes boxeurs. Écoutez, Maillard Monchipour, champion du monde dans les années 2000, s'en souvient.
J'ai appris une chose auprès de lui. Il m'avait dit, Maillard, un boxeur ne critique pas un autre. J'avais retenu ça, ce qui est rare chez nous. Nous sommes un sport individuel et malheureusement, les boxeurs sont trop souvent individualistes. C'est quelqu'un qui aimait la boxe, évidemment, mais qui aimait, qui respectait le boxeur. J'ai pris une leçon de vie avec lui sur cette phrase-là. Il représente la véritable star de la boxe en France, puisqu'il a rencontré l'un des quatre seuls champions du monde invaincus de l'histoire à deux reprises, Monzon. Voilà. Ça fait partie des grands noms de la boxe, sinon le plus grand nom de la boxe en France.
L'hommage du boxeur Maillard Monchipour à Jean-Claude Boutier, donc décédé hier à 74 ans, des propos recueillis par Thomas Dulin pour RTL. Ça n'a pas été si simple hier pour le PSG. Il a fallu batailler ferme pour vaincre Rennes. Au final, les Parisiens remportent le trophée des champions 2-1. Le match avait lieu en Chine, à Shenzhen, dans un stade quasi vide. L'homme fort de la rencontre, Sylvain Charlet, s'appelle Angel Di Maria. Heureusement qu'il était là.
Oui, quand on évoque le Paris Saint-Germain en cette période estivale, on ne parle que de Mbappé et de Neymar. Mais hier, le sauveur s'appelait Di Maria. L'Argentin a évité une nouvelle désillusion au Paris Saint-Germain. Entré à l'heure de jeu, il n'a fallu que 12 minutes à Di Maria pour marquer du pied gauche le coup franc direct de la victoire. Un véritable bijou, son quatrième coup franc en 2019, sa grande spécialité. Son entraîneur Thomas Tuchel.
Je sais qu'il peut changer un match avec un coup pied arrêté, avec un assist, avec une frappe. Oui, c'est la technique de frapper. Incroyable, il fait ça chaque entraînement 10 fois.
Thomas Tuchel avait laissé Angel Di Maria sur le banc de touche au coup d'envoi. L'Argentin n'avait que 3 jours d'entraînement dans les jambes. Comme Marquinhos et Thiago Silva, qui ont eux aussi disputé ce trophée des champions, il n'avait rejoint ses coéquipiers en Chine que mercredi, après avoir disputé la Copa América avec sa sélection. Angel Di Maria débute donc idéalement son été parisien, lui qui avait inscrit 12 buts et offert 11 passes décisives la saison dernière en Ligue 1.
Sylvain Charlet, envoyé spécial en Chine pour RTL. En Ligue 2, Lens toujours en forme. Les Sang et Or ont enchaîné une deuxième victoire, 2-0 face à Guingamp. C'était un match décalé. Hier, avec ce score, les nordistes prennent la première place du classement provisoire en ce début de saison. 90 km, pas plus. Il n'avait plus de jus hier, Julien Alaphilippe. Le Français qui est arrivé 5e du Tour de France a dû abandonner lors de la classique de San Sébastien, tout comme le Colombien Egan Bernal, le vainqueur de la Grande Boucle, on le rappelle. Du coup, eh bien, c'est un jeune Belge de 19 ans qui s'est imposé, Remco Evenepoel.
RTL 7h08.
Le flyboard, c'est comme le cheval. Il faut tout de suite remonter après une chute. En tout cas, son inventeur, Frankie Zapata, ne voulait pas attendre plus. L'ancien champion de jet ski va une nouvelle fois tenter de traverser la Manche ce matin grâce à son engin à propulsion. Des réacteurs lui permettent de voler à 15-20 mètres de l'eau. Il y a 10 jours, souvenez-vous, sa première tentative avait échoué lors du ravitaillement. Et depuis, il travaille sans relâche pour relever ce défi. C'est son rêve, mais pas seulement le sien.
C'est bien de faire vibrer les gens et surtout les enfants. Quand tu vois les étoiles dans les yeux des gamins, les gamins qui sont aujourd'hui ce que moi je rêvais quand j'avais 10 ans. Moi il y a 10 ans je regardais les Marvel, je regardais les comics books, je regardais les films de science-fiction et je rêvais, j'avais les mêmes étoiles dans les yeux et aujourd'hui tu vois les mêmes étoiles dans les yeux de ces gamins et finalement c'est juste fou de se dire que tu peux peut-être les inspirer dans ce qui seront dans leur avenir. Donc ça c'est extraordinaire.
Francky Zapata au micro de Maximilien Carlier qui est sur place pour suivre cet événement et nous le faire vivre sur l'antenne de RTL. Le départ est prévu entre 8h et 9h dès que les conditions météo le permettent. Comme prévu, il y a eu beaucoup de monde sur les routes hier avec un samedi noir dans le sens des départs. Aujourd'hui, le chassé-croisé continue, mais il devrait être moins intense. Bison futé hisse le drapeau orange. Alors vous le savez, cet été RTL avec M6 et la prévention routière, nous vous accompagnons sur le trajet de vos vacances. Et Christophe Bourou, notre spécialiste auto, nous rappelle certaines règles pour conduire en toute sécurité. S'arrêter régulièrement en fait partie. pour se reposer, se détendre, mais pas seulement. La pause, c'est aussi l'occasion de vérifier certains points sur votre véhicule, Christophe.
Sur autoroute, vous le constatez, il y a beaucoup de messages qui vous disent de faire une pause toutes les deux heures. Pourtant, ce n'est pas la majorité des automobilistes qui s'arrêtent régulièrement, car beaucoup se mettent la pression avec l'heure d'arrivée, explique Anne Lavaux de la prévention routière.
Alors le GPS, c'est un outil formidable parce que c'est un outil qui vous permet, au moment où vous allez partir, vous programmez votre lieu de destination et ça vous donne une heure d'arrivée. Et en fait, qu'est-ce que vous faites ? Vous créez un stress parce que vous avez annoncé une heure d'arrivée, sauf que votre GPS, il tient pas compte des pauses. Et vous arrêtez de faire des pauses parce que vous vous dites, eh bien, je ne vais pas arriver chez mamie Germaine ou chez les amis à 18h27.
Alors si sur autoroute, on a conscience de faire une pause, c'est moins le cas sur les petites routes. Pourtant, c'est essentiel.
Et c'est là où il faut se forcer un petit peu à faire cette pause toutes les deux heures parce que finalement, vous n'avez pas ce restaurant ou ce café qui vous appelle à faire la pause. Et donc, il faut se l'imposer.
Et si vous avez des enfants, lors des pauses, vérifiez qu'ils sont bien attachés car malheureusement, les deux tiers des enfants sont mal ou absolument pas attachés lors des trajets en voiture.
Christophe Bourou pour RTL. Un endroit où on demande également à ce que la ceinture soit attachée, c'est évidemment l'avion. Figurez-vous que pour éviter les mauvaises surprises à l'arrivée, je ne vois pas ma valise sur le tapis, je me retrouve seule, il y a un petit problème. Eh bien, Air France va mettre en place des étiquettes intelligentes. À partir de l'année prochaine, elles seront équipées d'une puce, ce qui nous permettra à nous, voyageurs, de savoir où se trouvent nos bagages à chaque instant, Sophie Jousselin.
Oui, cette étiquette, elle sera posée sur le bagage à l'enregistrement. Clem Garvey est le directeur général de l'entreprise Paragon ID qui va en fabriquer 40 millions chaque année pour Air France.
L'utilisateur, au lieu d'avoir un ticket avec simple code barre, désormais il aura un ticket avec une antenne RFID, une petite puce.
Et ensuite, le voyageur montera dans l'avion l'esprit léger puisqu'il pourra vérifier que son bagage voyage bien avec lui.
Concrètement, il va recevoir un SMS de la part de sa compagnie aérienne comme quoi sa valise a bien été prise en main, comme quoi sa valise était bien mise dans l'avion. Et bien sûr, ils vont avoir toutes les informations sur l'arrivée de la valise à destination.
Et s'il arrive malgré tout que le bagage s'égare, il sera plus facile de le géolocaliser. Mais le but, c'est quand même de réduire drastiquement le nombre de valises perdues. Elles étaient 26 millions en 2018.
C'est de réduire par 25% le nombre de bagages égarés parce qu'au lieu d'une code barre qui se lit peut-être une fois au moment de l'envoi de la valise et au moment de son arrivée, avec le technologie RFID, il y aura une suivi permanent de la valise.
Cette technologie va être déployée à partir de l'année prochaine à l'aéroport de Roissy, mais pour qu'elle soit pleinement efficace, il faudra à terme que tous les aéroports du monde en soient équipés.
Sophie Jousselin pour RTL. Et nous, dans un instant, nous serons...